Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Un atelier participatif et solidaire. Il s'appelle Autour du cycle. Il vous propose de la mécanique et des solutions vélo. Et pour nous présenter cet atelier, Nico.
L'idée première, c'était de rendre service à des gens qui utilisaient le vélo à Cray. Et aussi de donner envie aux autres. On s'est rendu compte qu'en mettant un peu les mains dedans, on avait peut-être un peu moins l'appréhension de la machine parce qu'on la connaissait mieux. Donc on a voulu rendre la mécanique vélo accessible au plus grand nombre. On se dit qu'il faut absolument déjà que ce soit un projet qui soit participatif, parce qu'il faut que les connaissances soient mutualisées et puis il faut que le partage soit bien diffusé. Le concept d'atelier participatif et solidaire, c'est quelque chose qui existe depuis déjà quelques années, mais qui se développe depuis peu de temps à grande échelle en France et précisément dans des villes un peu plus petites comme Cray. C'est des modèles qui ont fait leurs preuves donc et qui aujourd'hui montrent qu'ils fonctionnent quoi. Grâce à l'association Le Recyclage qui fédère aujourd'hui la plupart des ateliers vélo en France, on a pu se rendre compte des pratiques de comment ça fonctionnait. De quelle taille, quel modèle précis il fallait plutôt adopter pour bien s'adapter à la taille de la ville, à la pratique, etc. Et donc grâce à leur aide qui a été précieuse, on a pu se baser sur ensuite un peu plus nos instincts et nos envies. On a choisi de se rapprocher Vélo dans la ville parce que c'est une association locale qui s'occupe de la défense des usagers et de la promotion du vélo ici à Cray. Cela dit, on est aussi adhérent de Le Recyclage, on est aussi adhérent de la FUBIC, qui fédère les associations justement de promotion du vélo en France. On a voulu s'inscrire dans un mouvement qui est assez large pour justement essayer de mutualiser nos énergies et de pas rester dans notre coin. Notre objectif commun à tous, c'est que les gens fassent plus de vélo. Donc on avait juste, je pense, une approche complémentaire par rapport à ce qui se fait déjà aujourd'hui, à savoir on voulait faire de la mécanique avec les gens. Qui nous a aidé à formaliser les choses et à communiquer sur notre vision de l'atelier, ça a été de répondre à un appel à projet des Amis de la Terre au début justement du projet. On a pris le parti d'une association qui soit autogérée, autofinancée. C'est comme ça qu'on est parti. Quand on dit autofinancé, c'est-à-dire que on a fait appel à des contributions, mais toujours uniquement de gens qui se sentaient de s'investir un petit peu dans le projet, des gens assez proches du projet. C'est ce qui nous a permis aussi de voir à quel point l'idée de créer un atelier vélo à Cray résonnait dans la tête des gens dans le coin. Et ça a marché, ça a été une très bonne expérience. Puisqu'à partir du moment où on a fait cet appel à contribution, on a réussi à réunir une somme qui nous a permis d'acheter le premier lot d'outillage et puis de nous rendre compte voilà, de l'engouement qu'on pouvait attendre. C'est là que l'atelier s'est installé grâce à une contribution, là encore, d'un propriétaire généreux qui nous prête carrément son local dont il ne se servait pas, qui ne voulait pas louer non plus. Donc, mise à disposition gracieuse, on salue le geste.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.
Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel opus du magazine Biotope, la BioValley en pratique. Diffusé comme toujours simultanément sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol et en podcast sur le site de Radio Saint-Fé au www.radiosaintfé.com. Biotope, la Biovallée en pratique, une émission qui vous invite à découvrir chaque semaine un certain nombre de bonnes initiatives qui s'installent ou se développent sur le territoire de la vallée de la Drôme. Cette semaine, dans le cadre des découvertes des bonnes initiatives, nous sommes allés voir un acteur installé sur Alex en agroalimentaire. Installé au cœur des vergers, dans le sud-est de la France, en Drôme et en Vaucluse, le groupe Charles et Alice, anciennement Héros, fêtera bientôt ses 40 ans d'existence. L'occasion pour nous d'aller découvrir le site d'Alex et visiter avec eux le développement d'une politique environnementale. Nous visitons avec Frédéric Jean, responsable environnement, l'action de Charles et Alice pour préserver les ressources naturelles en eau, en énergie et en emballage. On retrouve tout de suite Frédéric Jean, responsable environnement.
Biotope. Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
On va commencer par votre présentation, hein, monsieur Jean. Depuis combien de temps vous travaillez à...
Bon, ça fait 20 ans que je travaille chez Charles Alice. J'ai démarré donc sur les lignes de production. La chance de pouvoir progresser au sein de la société et d'évoluer dans ma carrière via des formations en interne pour maintenant être m'occuper de l'environnement et de la sécurité, de façon plus générique, du développement durable de l'entreprise. Depuis 2003, en fait, je m'occupe de l'environnement. Et mon poste, en fait, a été créé avec la mise en place à l'époque de l'ISO 14001, qui est en fait une norme internationale sur l'environnement. Donc, suite à ça, j'ai eu des formations délivrées par un consultant qui nous a aidés à mettre en place cette démarche. Et donc, depuis 2003, je m'occupe de l'environnement. Mais maintenant, ça évolue plus vers le développement durable, on va dire.
Donc déjà, à l'époque de Héros, aujourd'hui associé avec un autre groupe, Faro.
C'est ça.
Voilà, et donc du coup, devenu Charles et Alice.
Voilà, donc notre société a été rachetée en 2010 par un de nos anciens directeurs généraux qui avait donc été patron pendant plusieurs années dans les années 2000. Et donc il a racheté la société pour créer le groupe Charles et Alice depuis. Et donc mon nouveau patron m'a demandé d'aller les aider aussi à mettre cette démarche ISO 14001 en place aussi là-bas. Et donc depuis 2 ans, ils sont certifiés aussi ISO 14001 comme nous. Donc c'est vraiment une volonté forte de sa part de prendre en compte toutes ces problématiques liées à l'environnement par rapport au management de l'entreprise. C'est vrai que moi, par rapport à mes fonctions antérieures, je m'étais beaucoup occupé de tout ce qui était gestion des déchets. J'étais assez sensible à la partie aussi, tout ce qui était pollution de l'eau, et j'ai aussi été en production, donc il y avait pas mal de choses que je connaissais un petit peu. Par contre, la plus grosse difficulté pour moi, ça a été la partie plutôt réglementaire, où là, effectivement, j'avais jamais fait de droit, et lire des arrêtés, des décrets, c'est, quand on l'a jamais fait, c'est pas facile, quoi.
L'eau. Depuis 2008, ils ont réduit leur consommation d'eau de 40%, soit l'équivalent de plus de 64 millions de bouteilles d'eau d'un litre 5. Avant, qu'est-ce que consomme par exemple une entreprise comme Charles et Alice en eau ?
Ben, c'est pas difficile, ça consomme 600 000 m3 d'eau par an. Et là, on est plutôt légèrement en dessus de 100 000. On a diminué de 51% notre consommation d'eau à la tonne fabriquée. Donc c'est vraiment ce qui est le plus visible quelque part par rapport à toute cette démarche. Donc c'est passé par des mises en place de recyclage sur nos eaux de refroidissement, hein, puisque nous, on dose nos pots, on les remplit à chaud, à 90 degrés, et ensuite, il faut rapidement les refroidir pour pas qu'ils brunissent, comme quand on faut que ça fasse du caramel, quelque part. Donc c'est vrai que historiquement on faisait ça avec de l'eau, et donc comme on n'était pas, entre guillemets, limité, on prenait l'eau dont on avait besoin et puis on refroidissait nos produits avec. Puisque l'eau, dans le cas que je vous explique, n'est pas souillée. C'est de l'eau qui est quelque part dans la phréatique, qu'on va pomper, qu'on va diffuser sur nos produits, qui sont fermés ou perculés. Donc, ils vont juste couler dessus, l'eau va être prise et renvoyée au milieu naturel. Il n'y a pas besoin de la... Bon, il y a un filtre quand même, effectivement, entre, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple qu'une station d'épuration. Sachant qu'on en a une qui nous est propre, où toutes nos eaux industrielles sont traitées.
D'accord.
Donc là, pour le coup, je suis aussi ce sujet-là, et croyez-moi que c'est beaucoup plus, quelque part, beaucoup plus compliqué en termes de traitement, tout ce que l'eau va suivre pour ressortir en qualité baignade dans la Drôme, hein, puisque par rapport au fait que l'on rejette dans la Drôme, on nous a demandé à ce qu'elle soit en qualité baignade. Donc ça implique aussi des traitements supplémentaires par rapport à si elle était simplement rejetée dans le Rhône ou dans l'Isère, qui ne sont pas en qualité baignade.
Cette station a toujours été ou bien...
Cette station date des années 2000, hein, où à l'époque, avant, on envoyait dans la station intercommunale Grand Alex. Et vu donc notre progression, vu aussi la capacité de la station de Grand Alex, on nous a demandé de voler nos propres ailes quelque part.
L'eau a été l'une des premières préoccupations.
Oui, parce que de par notre activité en agroalimentaire, on est... des consommateurs d'eau assez importants, et puisqu'il faut laver les fruits, il faut rincer aussi, en termes d'hygiène, il y a plein de choses à faire de façon
systématique
et... sinon on risque d'avoir de gros problèmes derrière. Donc ça a été vraiment notre premier, on va dire, cheval de bataille. Et on a aussi établi un plan par rapport à des risques de sécheresse qui viennent de rentrer en œuvre depuis le mois de juillet.
Bon, en cas de sécheresse, par exemple, qu'est-ce que vous auriez comme... prérogative si jamais...
Donc on va multiplier les analyses en sortie de la station d'épuration. Mmh. Normalement on en fait une tous les 15 jours, là on va en faire une par semaine. Et puis au sein de l'entreprise, on va essayer de limiter au maximum nos consommations d'eau encore plus qu'à l'heure actuelle. Sachant que bon, on fait ça pour ne pas, quelque part, ce qu'on nous interdise de prélever de l'eau et ce qui nous... condamnerait au chômage technique.
Et cette sensibilisation autour des précautions à prendre, autour de la consommation de l'eau, vous, en tant que responsable environnement de Charles et Alice, vous êtes amené à le faire partager à tout l'ensemble.
C'est vraiment un projet d'entreprise. C'est vraiment un projet d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a établi donc un petit livret, chaque salarié qui rentre dans l'usine, un petit livret d'accueil où dedans on parle pas forcément que des problèmes de sécurité ou de badgeage ou aux ressources humaines, mais aussi des problèmes d'environnement et aussi de sécurité. Et puis on a des écrans dynamiques dans les salles de pause où là on peut diffuser des messages. Je suis aussi des indicateurs mensuels de nos consommations d'eau que je diffuse à l'ensemble des personnels via ces moyens de communication. Je peux aussi intervenir dans les groupes. On fait beaucoup de groupes de progrès, nous. C'est-à-dire que chaque salarié fait partie d'un groupe de progrès dans l'usine. C'est-à-dire que pendant ses heures de travail, il peut... il n'est pas forcément sur sa ligne. Il peut être en salle, en réunion. Il va parler d'idées qu'il aurait d'amélioration, de problèmes qu'il peut rencontrer. Tout ça afin de s'améliorer en permanence, quoi. Et donc, dans ces cas-là, c'est aussi une tribune pour parler d'environnement ou de sécurité. Puis on fait aussi chaque année, ou une année sur deux, on fait des journées thématiques, en général en collaboration avec la commune du Val-de-Drôme, voire Biovallée, sur la sensibilisation des salariés. Par exemple, l'année dernière, on a distribué à chaque salarié un kit Biovallée d'économie d'énergie. Donc là, il y avait des réducteurs de débit sur les douches, il y avait des lampes qui s'éclairaient et qui s'éteignaient quand il n'y avait personne, en fait, des choses comme ça, quoi.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Pour leurs déchets de production, ils recyclent aujourd'hui 93% de leurs cartons, emballages plastiques, et tous les déchets, peaux et pépins de leurs fruits sont destinés aujourd'hui à l'alimentation animale locale et au compost.
La production, forcément, génère du déchet.
Oui. Donc, on est un producteur de déchets assez important. On a de la chance, c'est plutôt des déchets valorisables, voire des biodéchets. Donc, on a mis en place, suite à la mise en place d'ISO 14001, des partenariats avec des éleveurs locaux, voire des agriculteurs locaux, pour essayer de gérer au mieux ces déchets. Pour prendre quelques exemples, on a de la drêche de pommes, hein, puisqu'on travaille, la plupart de nos produits sont issus de pommes fraîches, hein, on peut en avoir toute l'année, parce qu'elles sont conservées dans des frigos. Et donc la peau, la queue, les pépins, bien sûr, là, on ne les met pas dans les pots, donc ça fait un déchet qui représente à peu près 4% de la masse totale de la pomme que l'on achète. Donc vu les volumes que l'on achète, ça fait à la sortie quelques tonnes de déchets. Donc là, on a mis en place avec un éleveur qui est à Montoison. On fait du compost à la ferme. Un compost qui va ensuite mettre pour amender ses champs. Et donc ce compost, vu qu'il a suivi un cycle de fermentation, il est toléré pour le bio. Après, pour ces autres déchets, on travaille avec des éleveurs. Où là, ça va rentrer dans la ration de par exemple de porc, qui vont ensuite... donc le manger. Et puis là, on a fait un gros travail avec un éleveur à Grane, où on a essayé justement de voir comment notre produit pouvait remplacer l'eau dans la ration de ces animaux. Lui, il gagne parce que quelque part, c'est plus riche que l'eau, notre produit, donc il a pu mettre moins de quelque part de nutriments dans sa ration qui était déjà apporté par le produit. On l'a aussi aidé à investir, hein, pour qu'il puisse diffuser notre produit ou sa soupe sur l'ensemble de son installation, puisque quand on a commencé notre partenariat, il n'y avait qu'une partie de son élevage qui était alimentée. On a fait aussi quelque chose de nouveau récemment, c'est qu'on est en train de regarder dans nos déchets, en particulier les cartons, ceux qui pourraient avoir une deuxième vie. Donc on travaille avec une société qui s'appelle Drôme en Balle, qui est dans la Drôme, qui collecte en fait certains types de cartons chez nous, qui ensuite va les revendre à des déménageurs ou d'autres sociétés. Voilà. Donc c'est un deuxième, quelque part, au lieu d'en faire des balles et puis que ça reparte en papeterie, c'est des cartons qui sont d'occasion. C'est quelque chose que j'ai fait mettre aussi en place sur notre site d'Avignon. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place petit à petit, mais qui maintenant fonctionne depuis 3-4 ans, où on oscille entre, on va dire, 94 et 92% de déchets valorisés. On est allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que c'est bien beau de valoriser nos déchets, mais le mieux, c'est de ne pas en faire. Donc là, on a fait une démarche collective avec l'ensemble de l'entreprise, qu'on a baptisé Chasse au gaspillage. Et donc, on a essayé de voir à tous les niveaux du process, d'essayer de quantifier les pertes dans un premier temps, et de voir ce qu'on pouvait faire pour les limiter. Quelque part, c'était de la matière qui était gagnée, quoi. Et donc, ça a eu un effet bénéfique sur la station d'épuration, puisqu'on a envoyé moins d'eau chargée à la station d'épuration. Ça a eu des effets bénéfiques sur les déchets, puisqu'il y a certains déchets qu'on n'a pas produits. Et en gros, on a divisé par deux nos pertes. On a aussi fait un concours, hein, pour que, quelque part, reconnaître en fait le salarié qui avait donné des idées, hein, puisqu'on a aussi on a ouvert une boîte à idées. Et donc, tous les salariés qui souhaitaient mettaient les idées qu'ils avaient par rapport à ça. Et puis, en petit comité, on a élu l'idée en fait qui nous paraissait selon certains critères, qui était la facilité de la mettre en place, sa pertinence, son innovation, son coût. Voilà, et puis depuis, on a mis en place des indicateurs de suivi de nos pertes à tous les niveaux. Et puis on a aussi, dans un premier temps, fait des actions très rapides qui pouvaient être simples à faire, puis d'autres qu'on a étudiées, qui nous ont donné un petit peu des chiffrages. Et on a pu comparer à ce qu'on perdait par rapport à l'investissement pour l'améliorer. Et donc, on a mis, il y a 2-3 ans en arrière, la pousse à l'obus sur nos tuyaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la pousse à l'obus? On a modifié toutes nos tuyauteries. Et on met un petit obus, c'est une espèce qui fait en fait le diamètre du tuyau avec un joint, raclant. Et on l'envoie avec de l'air comprimé dans le tuyau. Et ça va pousser, en fait, le produit qui est en train de se finir, sans le diluer avec de l'eau, ce qui nous permet de le passer. On a mis aussi en place l'idée donc gagnante de la personne. C'est en fait, on a mis tous nos tuyaux sont opaques parce qu'ils sont en inox. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié certaines parties des tuyaux qui étaient juste avant d'arriver dans les bacs. On a mis des cylindres en plastique très dur, transparent, pour que les salariés puissent mieux voir la phase justement de transition et donc de moins perdre de produits. Voilà des exemples de choses que l'on a mises pour justement limiter au maximum nos déchets. Et ça s'est vraiment traduit par des résultats probants en termes de pertes, quoi.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving. Then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics, prophesize with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. Don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside that's raging. It'll soon shake your windows, it'll rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can lend your hand. For the times, they are a change. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast. And the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last. For the times, they are a change.
Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Depuis 2008, Charles et Alice ont réduit de 15% leur consommation d'énergie, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 200 ménages hors chauffage.
Quels sont les plus gros coûts en énergie que consomment Charles et Alice ?
Alors, deux principaux, qui sont le gaz et l'électricité. Donc, on a aussi mis en place pas mal de choses. Donc, sur le gaz, on a essayé de voir en fait la pression de la vapeur qu'on a dans le tuyau, hein, puisqu'on cuit nos fruits avec de la vapeur. Et donc on a essayé d'optimiser au maximum le fonctionnement de la chaufferie, hein, par rapport à nos besoins, ce qui nous a permis de faire des gains, de limiter notre consommation de gaz par exemple de 10% depuis 2008, sans rien changer, juste en suivant, en optimisant la pression dans le réseau par rapport à notre besoin. On a aussi mis en place des systèmes pour récupérer les condensats, hein, c'est-à-dire qu'une fois que la vapeur elle a joué son rôle, ben elle va passer en dessous de 100 degrés, donc elle se transforme en eau. Donc cette eau, elle est chaude, même si elle est plus à 100 degrés, elle est quand même chaude. Donc on la récupère et on la renvoie en tête de chaudière. Ce qui nous évite en fait de mettre de l'eau brute en entrée, qui elle est froide. Mmh. Donc tout ce gain pour la refaire passer au-dessus de 100 degrés, et ben il est fait avec de l'eau chaude. Voilà, donc on avait vraiment mis en place un système de pilotage des énergies. Quant à l'électricité, ben, on a plutôt travaillé sur tout ce qui est des compresseurs d'air, hein, puisqu'on a, on est un gros consommateur d'air comprimé. Hein, toutes nos machines sont automatisées, donc fonctionnent avec des vérins qui sont alimentés avec de l'air comprimé. Donc là, on a carrément changé notre pièce compresseur. Hein, on a mis des compresseurs dernière génération, avec des rendements bien meilleurs, et en plus une récupération de l'air chaud qui servait à les refroidir et qui est envoyé dans l'usine pour éviter en fait de chauffer les bâtiments par exemple en hiver. Voilà, donc on a mis ça en place. Pareil avec des moyens de pilotage et de suivi des compresseurs pour dès qu'il y a une dérive qu'on puisse intervenir pour comprendre ce qui se passe et d'où ça vient. Voilà, après ce qu'on a mis en place, on a mis en place aussi des détecteurs de présence dans les zones dans les locaux de vie. Et puis là, on a une campagne de changement de tous nos éclairages dans les bâtiments, où c'est des éclairages qui sont un peu vétustes, on va dire, avec des des ampoules qui ont des niveaux de rendement qui sont beaucoup plus faibles. Là, on est en train de les changer en mettant des LED, hein, qui éclairent mieux avec des consommations électriques beaucoup plus faibles. Donc voilà tout ce qu'on a fait. Et les deux cumulés sur les énergies nous ont permis de faire des... pas toujours pareil, remis à la tonne fabriquée, une consommation d'énergie à peu près de 10% en quelques années.
Vous pouvez bénéficier d'aides pour la mise en place de certains changements.
Oui,
certains,
ça s'appelle les C2E. Donc effectivement, pour la pièce compresseur, pour les LED, on a bénéficié de subventions de C2E. Voilà, c'est des aides qui sont européennes. Et donc en fonction de certains critères, en fonction du type et de la performance des matériaux que l'on met, on a des subventions.
Qui permettent de mettre en place.
Voilà.
Et on n'a pas parlé d'énergie renouvelable, alors est-ce que c'est
pour l'instant
mis en application?
C'est à l'étude.
C'est à l'étude, ouais. C'est aidé ça, par l'Europe?
Je pense qu'il y a des subventions, effectivement, mais je ne suis pas au fait du sujet. Seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a étudié la mise en place pour couvrir certains de nos stockages, voire de nos parkings, de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc on est sur le sujet. Pour l'instant, c'est vraiment au stade embryonnaire. Je ne peux pas vous dire ou vous garantir que ça va être mis en place, mais c'est quelque chose que l'on a étudié. Mmh. On s'est aussi impliqué dans un projet de méthanisation qui va voir le jour à Vaux-Navet-la-Rochette, où certains de nos déchets, nos biodéchets, seraient à terme méthanisés. Donc là, pour produire de l'électricité et de la chaleur. Pas chez nous, mais voilà, ça rentre dans le domaine de l'énergie renouvelable. On a étudié aussi l'éolien, si vous voulez, mais par rapport à notre consommation, il nous faudrait une éolienne, vous voyez, comme celles qui sont sur les crêtes à grades. N'imagine pas d'en mettre une comme ça devant chez nos voisins et en plein milieu du village d'Alex, quoi. Déjà, on ne sait pas si ça serait autorisé. Donc après, notre solution, c'est d'en mettre des plus petites qui sont donc soumises juste uniquement à permis de construire. Et là, pour le coup, par rapport à nos consommations et nos besoins... ça serait juste de la com, quoi. Donc on l'a étudié, mais on a préféré laisser tomber par rapport à ça, quoi.
D'autres perspectives de...
Oui, alors la perspective, donc, c'est plutôt une espèce de mutation de la partie environnementale vers le développement durable. Donc avec la sensibilisation du personnel, je vous en ai parlé, par rapport au kit énergie, mais ce jour-là, on leur a aussi fait essayer des vélos électriques pendant leur heure de travail, on leur a fait essayer des voitures électriques. On est en train de s'impliquer autant que faire se peut dans la Biovallée. On va signer la charte et puis on essaye de voir ce qu'on pourrait mutualiser avec d'autres entreprises au sein de notre vallée. Et on pense pouvoir faire des choses dans le domaine des déchets, dans le domaine des déplacements aussi, voir un peu ce qu'on pourrait faire d'intelligent en collaboration avec d'autres entreprises, voire d'autres entités au sein de la Biovallée, quoi. Et puis aussi, on est aussi un très gros faiseur en bio. On est le premier transformateur de fruits bio en France. Et donc, on est allé aussi vers l'aide des arboriculteurs. Donc, on a planté avec des arboriculteurs 8 hectares qui nous sont quasiment dédiés à la récolte. Et donc là, l'année dernière, on a récolté nos premières pommes bio, 300 tonnes, je crois. Qu'on a transformé dans des pommes bio France. Et donc, on a créé une gamme labellisée Origine France, quoi, avec des fruits récoltés dans le coin.
Locaux.
Voilà. On est prêt encore à augmenter le nombre d'hectares s'il y a des gens qui sont intéressés, quoi.
D'accord, donc inviter des producteurs.
Voilà. Voilà, donc j'en ai parlé aussi lors des différentes réunions avec la CCVD ou la Biovallée, mais c'est des choses qui nous tiennent à cœur et... On est prêt à faire des partenariats gagnant-gagnant avec des arboriculteurs ou des éleveurs pour les déchets ou des choses comme ça.
En termes de s'inscrire dans un milieu rural, alors c'est sûr que c'est bien, on peut avoir des vergers, on a de la place pour s'étaler, mais c'est pas compliqué pour une grosse entreprise comme Charles et Alice.
Le plus compliqué, c'est surtout pour les déplacements des salariés. Parce que certains salariés qui viennent de Valence, c'est vrai que ça commence à faire un peu loin. Et donc, notre démarche, c'est vraiment d'essayer de les aider par rapport au covoiturage, par rapport à des choses comme ça, pour leur simplifier la vie, et puis aussi améliorer leur pouvoir d'achat, quoi. Et puis, c'est vrai que vu notre situation géographique, des fois, on a du mal à trouver des gens pour travailler dans certains secteurs, quoi.
Biotope. un regard sur la construction d'un écoterritoire.